Chapitre 2.
C'est impossible,
murmura Cécilia en se tordant nerveusement les mains. Elle se pencha vers Ulysia, les yeux écarquillés.
Ça ne se peut pas.
Pour une fois, la sœur n'affichait pas son sourire glacial de prédatrice.
Quelque chose ne va pas,
dit Armina, son magnifique regard bleu voilé d'inquiétude.
Ce n'est qu'une anomalie mineure,
répondit Ulysia, visiblement excédée par le manque de contrôle de ses complices. Si peu dociles qu'elles soient, les deux sœurs ne parurent pas avoir envie de polémiquer avec leur volcanique supérieure. En trois pas, Ulysia s'approcha d'Orlane et l'attrapa par le col de sa chemise de nuit. De l'autre main, elle brandit sa canne en direction de Calan, toujours recroquevillée dans les ombres près de la porte.
« À quoi ressemble-t-elle ?»«
À un chat noyé !»
répondit l'aubergiste de mauvaise grâce. De toute évidence, il n'aimait pas beaucoup qu'on le brutalise. Calan frémit d'angoisse pour le pauvre homme. Parler ainsi à sœur Ulysia était un moyen très sûr de s'attirer de graves ennuis. Pourtant, au lieu d'exploser de rage, la sœur semblait tout aussi surprise que sa prisonnière.
« Je sais bien qu'elle est trempée, » dit-elle, « mais décris-la un peu plus précisément. »
Orlane se dégagea, tira sur le col de sa chemise de nuit, puis observa attentivement la cliente que les trois sœurs et lui étaient les seuls à voir.
« Les cheveux épais, les yeux verts, une très jolie femme. Elle resplendirait si elle n'était pas mouillée de la tête aux pieds. Encore que ses vêtements, moulants par la force des choses, mettent ses formes en valeur. »
L'aubergiste eut un sourire lubrique qui déplut souverainement à Calan, même si elle se réjouissait qu'il la voie.
« Un joli morceau de femme, quoi !»
Cet examen minutieux donna à Calan l'impression d'être nu. Alors qu'il la dévorait du regard, Orlane se passa un pouce au coin des lèvres et elle entendit son oncle faire crisser sa barbe de trois jours. Le bois qu'il avait ajouté dans la cheminée s'embrasa enfin, offrant une bien meilleure illumination. Le regard de l'aubergiste remonta le long du torse de Calan et s'immobilisa soudain.
« Ses cheveux sont aussi longs que... »
commença-t-il. Son sourire concupiscent se volatilisant, Orlane écarquilla les yeux de surprise.
« Par les esprits du bien !»
murmura-t-il, blanc comme un linge. Il se laissa tomber sur un genou.
« Pardonnez-moi, je vous en prie. Je n'avais pas reconnu. »
La lourde canne d'Ulysia s'abattit sur le crâne de l'aubergiste, le faisant basculer en avant. Sans avoir compris comment, il se retrouva à genoux.
« Silence !»
cria Ulysia.
« Qu'est-ce qui vous prend ?»
s'indigna Amy en bondissant aux côtés de son mari. Elle s'agenouilla et lui passa un bras autour des épaules pour le soutenir. Avec un gémissement, Orlane posa sur le sommet de son crâne une main qui devint aussitôt poisseuse de sang.
« Vous êtes toute folle, et mon mari aussi !»
s'écria Amy. Elle serra contre sa poitrine la tête du pauvre aubergiste, tachant de sang sa chemise de nuit immaculée.
« Sauf si vous voyagez avec un fantôme, vous êtes trois et... Silence !»
répéta Ulysia d'un ton qui fit froid dans le dos à Calan. Amy dut éprouver la même sensation car elle se tut instantanément. Alors que la pluie martelait toujours les fenêtres, le roulement du tonnerre semblait s'éloigner, mais le vent ne s'était pas calmé et l'enseigne continuait à grincer sous les bourrasques. Dans un silence de mort, Ulysia se tourna vers la fillette toujours assise sur sa marche, les bras passés autour du poteau de la rampe.
« Combien de clients vois-tu ? »
demanda la sœur d'un ton à glacer les sangs. Trop effrayée pour parler, la gamine tremblait comme une feuille.
« Combien ? »
grinça Ulysia. Terrorisée, l'enfant serra si fort le poteau de bois que les jointures de ses doigts en blanchirent.
« Trois ? »
parvint-elle à souffler.
« Ulysia ! »
dit Armina dans tous ses états.
« Que se passe-t-il ? Ce qui arrive à l'homme est tout à fait impossible. Nous avons jeté les sorts de vérification et... extérieur !»
souffla Cécilia.
« Hein ? Que veux-tu dire ? Nous avons jeté les sorts de vérification extérieur, sans procéder à un examen intérieur. « Quelle mouche te pique ?»
explosa Armina.
« Pour commencer, c'est une procédure inutile. Et de toute façon, quelle sœur serait assez idiote pour lancer un sort de vérification intérieure ? Personne n'a jamais fait ça. C'est une perte de temps. » « Je voulais simplement dire... »
D'un regard assassin, Ulysia réduisit ses deux compagnes au silence. L'air pathétique, avec ses cheveux trempés collés sur son crâne, Cécilia parut vouloir insister, mais elle jugea plus prudent de passer la main. Ayant un peu repris ses esprits, Orlan s'écarta de sa femme et tenta de se relever. Du sang coulait sur son front et le long des arêtes de son nez proéminent.
« Si j'étais toi, aubergiste, »
lâcha Ulysia,
« je resterais à genoux. »
La menace eut un effet très éphémère. Visiblement furieux, l'homme se redressa, retira la main de sa tête, bomba le torse et serra les poings. Sa fureur, comprit Callan, l'incitait à jeter la prudence aux orties, et il risquait de payer très cher son audace. Du bout de sa canne, Ulysia fit comprendre à la prisonnière qu'elle devait reculer encore. Ignorant cet ordre, Callan approcha au contraire de sa tortionnaire. Si la situation pouvait s'arranger, c'était maintenant ou jamais.
« Sœur Ulysia, il va répondre à vos questions, j'en suis sûr. Ne lui faites pas de mal. »
Les trois sœurs se tournèrent vers Callan, l'air plus mécontente. Personne ne s'était adressé à la prisonnière ni ne lui avait donné l'autorisation de parler. Tant d'insolence ne resterait pas impunie, Callan le savait. Mais Orlan risquait sa vie si nul n'intervenait en sa faveur, et elle était la seule en position de le faire. Ce n'était pas tout. Ce soir, Callan avait une chance peut-être unique de découvrir quelque chose sur elle-même, voire d'apprendre qui elle était et pourquoi elle avait perdu presque tous les souvenirs de son ancienne vie. Cet aubergiste l'avait reconnue, ça ne faisait aucun doute. En cela, il pouvait être la clé de son passé. Même si ça impliquait de s'attirer le courroux des sœurs, impossible de laisser passer une occasion pareille. Mais pour ça, il fallait agir vite.
« Maître Orlan, écoutez-moi, je vous en prie. Nous cherchons une dame d'âge mûr nommée Tovi. Les trois femmes que j'accompagne ont rendez-vous avec elle. Comme nous avons été retardés, elle doit nous attendre depuis quelques jours. Répondez aux questions de ces femmes au sujet de leur amie, je vous en prie. Ou mieux encore, allez la chercher. » Si vous m'écoutez, cette mésaventure comme l'orage ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir pour votre famille et vous. »
L'homme inclina respectueusement la tête, comme si une reine venait de lui demander son aide. Callan fut stupéfié par cette réaction. Comment pouvait-on lui manifester une telle déférence ?
« Nous n'avons pas de cliente nommée Tovi, mère... »
Un éclair aveuglant déchira l'air de la salle commune, à croire que l'orage se déchaînait à présent dans l'auberge. Le trait de lumière brûlante qui venait de jaillir des mains d'Ulysia percuta Orlan à la poitrine avant qu'il ait pu terminer sa phrase. Trop proche de l'aubergiste, Callan ressentit jusqu'au plus profond de ses entrailles l'onde de choc de l'explosion. Projeté en arrière, Orlan renversa une table et plusieurs chaises avant de heurter violemment un mur. Tué sur le coup, le pauvre aubergiste avait été pratiquement coupé en deux par la sorcellerie d'Ulysia. Une fumée noire montait de sa chemise et une bouillie rouge maculait le mur à l'endroit où il s'était écrasé. Dans le silence qui suivit la détonation, les oreilles de Callan bourdonnèrent comme si elles venaient d'entendre sonner des cloches de trop près. Incapable de saisir vraiment ce qui s'était passé, un événement absurde qui détruisait sa vie entière, Amy cria un seul et unique mot.
« Non !»
Callan se plaqua une main sur le nez et la bouche, pas seulement parce qu'elle était révulsée, mais pour ne plus sentir la puanteur du sang et de la chair brûlée. Propulsée sur le sol par l'onde de choc, la lanterne s'était éteinte, laissant la pièce dans une miséricordieuse pénombre déchirée de temps en temps par la lointaine lueur des éclairs. Une nuit normale, la détonation aurait réveillé le village entier. Avec l'orage, personne n'avait rien remarqué. Les bols que tenait Amy lui échappèrent, roulant un moment sur le plancher. Folle de chagrin et d'horreur, l'aubergiste courut vers la dépouille de son mari. Ulysia réagit immédiatement. Bondissant à la vitesse de l'éclair, Elle intercepta au vol la malheureuse aubergiste.
« Où est Tovi ? »
cria-t-elle en plaquant sa proie contre un mur.
« Je veux des réponses et plus vite que ça !»
Callan vit que la sœur avait fait jaillir son dakra de sa manche. Extérieurement, cette arme ressemblait à un couteau muni d'une tige de fer pointue et non d'une lame. Toutes les sœurs en portaient un. Et elles s'en étaient servies contre des éclaireurs de l'ordre impérial. Lorsqu'une personne était blessée par cette arme, même une simple égratignure, il suffisait d'une pensée de la sœur pour que la plaie soit mortelle. En d'autres termes, ce n'était pas le dakra qui tuait, mais sa propriétaire qui l'utilisait pour aspirer la vie de sa victime. Et si elle ne consentait pas à l'épargner, la cause était entendue et sans appel. À la lueur d'un éclair, Callan vit que deux sœurs tentaient maintenant de maîtriser la pauvre Amy, qui se débattait comme une bête prise au piège. La troisième sœur, dans la pénombre, impossible de dire laquelle, était déjà en train de gravir les marches. Callan décida de s'occuper de la gamine, qui se précipitait vers sa mère. Lançant un bras, elle l'attrapa au vol, la saisissant par la taille. Incapable de se souvenir assez longtemps de Callan pour comprendre qu'elle n'était pas victime d'un spectre, la petite hurla comme une possédée. Après avoir vu mourir son père, un horrible spectacle qu'elle n'effacerait jamais de sa mémoire, c'en était trop pour sa pauvre raison. Malgré le vacarme de la pluie et du vent, Callan entendit les bruits de pas de la troisième sœur qui courait dans le couloir de l'étage. Elle s'arrêtait régulièrement, sans doute pour jeter un coup d'œil dans chaque chambre dont elle devait ouvrir la porte avec son pouvoir. Les clients, réveillés par le vacarme et les cris, allaient se trouver devant une sœur de l'obscurité folle de rage. Et ceux qui dormaient encore risquaient de ne jamais oublier le cauchemar qui les attendait. Amy cria soudain de douleur et Callan comprit immédiatement pourquoi. Oulicia la torturait.
« Où est Tovi ? Où est-elle ? »
L'aubergiste implora la sœur d'épargner sa petite fille. Une grave erreur tactique, comprit Callan. Il ne fallait jamais dévoiler ses pires craintes à un ennemi. Jamais. Dans le cas présent, cependant, cette information n'avait guère de valeur. Pour commencer, les sœurs étaient assez malignes pour deviner ce qui pouvait angoisser par-dessus tout une mère. Ensuite, elles n'avaient pas besoin d'une raison pour se montrer impitoyables. Voir sa mère folle de terreur paniquait encore plus la fillette, qui se débattait avec l'énergie du désespoir, mais elle était bien trop frêle pour s'opposer à une femme comme Callan. Sans desserrer sa prise, Callan fit traverser la salle à sa petite captive, puis la força à franchir l'arche et à entrer dans la pièce obscure sur laquelle elle donnait. Grâce à la lueur des éclairs qui filtraient d'une fenêtre sur le mur du fond, Callan vit qu'il s'agissait d'une cuisine qui servait également de garde-manger. La petite criait maintenant presque aussi fort que sa mère.
« Tout va bien !» souffla Callan à l'oreille de sa protégée. « Je te défendrai, tu n'as rien à craindre. »
Un mensonge, hélas. Mais comment dire la vérité à une si jeune enfant ? La gamine tenta encore de se libérer. Elle devait avoir l'impression qu'un fantôme tentait de l'entraîner dans le royaume des morts et sa raison vacillait. Si elle avait aperçu Callan, cette image s'était effacée de sa mémoire avant qu'elle ait eu le temps de lui donner un sens. Dans le même ordre d'idées, les paroles de réconfort n'avaient pas le temps de se graver dans son esprit. À l'instant même où il l'apercevait, les gens oubliaient jusqu'à l'existence de Callan. Orlan seul avait fait exception à cette règle. Mais il était mort maintenant. Callan serra plus fort la fillette. Pour la protéger vraiment ou pour se rassurer elle-même. En cet instant, empêcher la pauvre petite d'assister au calvaire de sa mère semblait un objectif digne de tous les efforts. Ignorant qu'on entendait l'aider, la fille d'Amy et d'Orlan tentait d'échapper à ce qu'elle devait prendre pour un monstre invisible venu d'un autre monde. Ajouter à la terreur d'une innocente brisait le cœur de Callan. Mais la laisser retourner dans la salle commune aurait été encore pis. La lueur d'un nouvel éclair incita Callan à tourner la tête vers la fenêtre, assez large pour qu'elle puisse sortir par là. Dehors, il faisait très sombre entre les éclairs et la forêt était proche des bâtiments. Dotée de longues jambes, Callan était forte et rapide. Si elle en décidait ainsi, elle aurait vite fait d'avoir franchi la fenêtre et gagné le couvert des bois. Hélas, elle n'en était pas à sa première tentative d'évasion. La pénombre et la forêt, elle le savait, ne suffiraient pas à la mettre hors de portée du sombre pouvoir des sœurs. Agenouillée dans le noir, la fillette dans les bras, Callan sentit qu'elle tremblait. La seule perspective de s'enfuir la faisait transpirer d'angoisse à l'idée des sorts de garde qui risquaient de s'éveiller en elle. C'était déjà arrivé, et le souvenir de la douleur lui faisait tourner la tête. Pourquoi supporter de nouveau un tel calvaire pour rien? Échapper aux sœurs était impossible, tout simplement. Relevant les yeux, Callan aperçut dehors l'ombre d'une sœur qui redescendait les marches.
« Ulyssia, les chambres sont vides !»
C'était la voix de Cécilia.
« Il n'y a pas de clients !»
Dans la salle commune, Ulyssia lâcha un horrible juron. L'ombre de Cécilia sembla pivoter sur elle-même pour occulter maintenant l'entrée de la cuisine. On eût dit que la mort en personne venait de tourner son regard assassin sur le monde des vivants. Derrière la sœur, Amy pleurait et gémissait. Totalement désorientée, elle ne parvenait pas à répondre aux questions que beuglait à présent Ulyssia.
« Tu veux que ta mère meure ?»
demanda Cécilia de sa voix étrangement douce et calme. Pas moins dangereuse que ses compagnes, Cécilia avait une façon très posée de parler, qui se révélait souvent plus terrifiante que les cris d'Ulyssia. Si elle se contentait de menaces plus simples et directes, Armina avait tendance à les cracher comme du venin. Tovi, elle, faisait régner la terreur et torturait ses victimes avec une sorte de joie maladive. Des styles différents pour des personnalités différentes. Mais au bout du compte, une même efficacité. Car il était parfaitement vain de résister à ces sorcières. Elles obtenaient toujours ce qu'elles désiraient et seules variaient le degré de souffrance que devaient endurer leurs victimes.
« Alors tu veux qu'elle meure ?»
répéta Cécilia.
« Réponds-lui, »
souffla Callan à l'oreille de l'enfant.
« Je t'en prie, réponds-lui. »« Non !»
réussit à souffler la fillette.
« Dans ce cas, dis-nous où est Tovi ?»
Dans la salle commune, Amy poussa un cri déchirant, puis elle se tut et Callan reconnut le bruit de la chute d'un corps. Le silence revint, plus oppressant que jamais. Derrière Cécilia, deux autres ombres vinrent danser devant les yeux de Callan. Amy ne répondrait plus jamais à aucune question. Et ses meurtrières se désintéressaient déjà d'elle. Cécilia entra dans la cuisine et approcha de la gamine que Callan serrait toujours dans ses bras.
« Les chambres sont vides, »
dit-elle.
« Pourquoi n'avez-vous pas de clients ?»«
Parce que personne n'est venu, »
réussit à répondre l'enfant.
« À cause des envahisseurs de l'ancien monde, vous comprenez ?»«
C'était logique, » se dit Callan. Après avoir quitté le palais du peuple, en Dara, les sœurs et elles avaient remonté un fleuve vers le sud, cherchant à fuir rapidement le lieu de leur larcin. Durant leur croisière, elles avaient souvent aperçu des détachements de l'armée de l'ordre et vu plusieurs fois des villages dévastés sur les berges du fleuve. Les exactions des soudards de Jagang avaient sûrement découragé les voyageurs susceptibles de descendre à l'auberge du Cheval Blanc.
« Où est Tovi ?»
demanda de nouveau Cécilia.
« C'est une enfant !»
cria Callan aux trois sœurs.
« Fichez-lui la paix !»
Le choc fut si violent, une sorte de déchirement intérieur, mais de chaque fibre de ses muscles, que la prisonnière se pétrifia, ayant oublié jusqu'à l'endroit où elle était. Autour d'elle, la pièce tournait comme une toupie, et elle heurta un meuble assez fort pour redouter de s'être brisé un os. Les portes du placard en question s'ouvrirent, larguant une entière cargaison de casseroles, de poêles et d'ustensiles divers. Dans un vacarme très désagréable, des assiettes et des plats se cassèrent en mille morceaux en percutant le sol. Perdant l'équilibre, Callan s'étala face contre le plancher. Comme elle avait tendu les mains pour amortir sa chute, des éclats de faïence s'enfoncèrent douloureusement dans ses paumes, puis ses poignets. Sentant un objet très pointu faire pression sur sa langue, elle comprit qu'un éclat de verre lui avait proprement transpercé la joue. Pour éviter d'avoir la langue coupée, elle referma les dents sur le morceau de verre, le cassant en deux, puis elle parvint à cracher la partie acérée qu'elle venait ainsi de détacher de sa base. Sonnée, elle resta d'abord étendue sur le plancher. Puis elle tenta de bouger, mais ne réussit pas, comme si son cerveau était déconnecté de son corps. Chaque essai lui arrachait un gémissement, et pour chaque minuscule quantité d'air ainsi expulsée, elle se révélait incapable d'en aspirer une fraîche. Ses poumons se vidaient lentement et impossible de les remplir. La douleur qui lui déchiquetait le torse la condamnait à mourir asphyxiée. Avec l'énergie du désespoir, elle put inspirer brièvement. La brûlure consécutive dans sa gorge lui valut une quinte de toux. Violemment agitée, l'éclat de verre toujours planté dans sa joue lui fit un mal de chien. À croire qu'un boucher invisible la débitait en morceaux sans avoir eu l'idée de la tuer d'abord. Ses bras refusant de lui obéir, elle ne pouvait ni se soulever un peu ni arracher l'éclat de verre de sa chair. Levant les yeux, elle vit que les trois sœurs harcelaient toujours la gamine. Alors qu'Armina lui tenait les bras après l'avoir à demi soulevée du sol, Cécilia la força à se coucher sur un plan de travail de boucher et Ulysia se baissa pour la regarder dans les yeux.
« Sais-tu qui est Tovi ? »
demanda-t-elle.
« La vieille dame, oui, la vieille dame.
C'est ça. Et que peux-tu me dire d'autre à son sujet ?»«
Elle était grosse, vieille et grosse, oui, même qu'elle avait un peu de mal à marcher. »
Ulysia se pencha un peu plus et saisit la fillette à la gorge.
« Où est-elle ? Et d'abord, pourquoi n'est-elle plus ici ? Quand est-elle partie et pour quelle raison ?»«
Elle est restée ici quelques jours. » Mais ça fait un moment qu'elle est partie. »
Avec un cri de fureur, Ulysia souleva la fillette, la tenant toujours par la gorge. Mobilisant tout ce qui lui restait de force, Callan réussit à se mettre à quatre pattes. En rampant, et tant pis pour les éclats de vaisselle qui s'enfonçaient dans ses paumes et ses genoux, elle parvint à atteindre l'endroit où la gamine, projetée dans les airs par Ulysia, se serait écrasée sur le plancher. Ne comprenant pas ce qui avait amorti sa chute, la pauvre petite hurla de terreur et d'angoisse. Du coin de l'œil, Callan vit qu'un fendoir gisait sur le sol à sa portée. Alors qu'elle maintenait fermement l'enfant contre son flanc, elle referma les doigts de sa main libre sur le manche en bois de l'ustensile. Les sœurs approchaient déjà. D'instinct, Callan se prépara à combattre pour protéger une vie innocente. Il n'y avait rien de réfléchi là-dedans. Un réflexe si primal qu'elle avait l'impression d'observer les actes de quelqu'un d'autre. Cela dit, tenir une arme était une source d'intense satisfaction. Malgré le sang qui maculait son manche, cette hache de guerre improvisée incarnait la vie et l'espoir. La lueur des éclairs se reflétait sur le tranchant, le faisant briller comme une pierre précieuse. Lorsque ses cibles furent assez proches, Callan arma son bras pour frapper. Aussitôt, elle eut l'impression qu'un taureau lancé à pleine vitesse venait de la percuter de plein fouet. Lâchant la gamine, elle vola dans les airs et alla s'écraser à l'autre bout de la pièce. L'impact contre le mur la sonna de nouveau. Comme si la cuisine était tout au fond d'un long tunnel obscur, elle eut l'impression de tout voir par le petit bout d'une lorgnette. Les sœurs, l'enfant, les meubles, tout paraissait minuscule. Elle voulut secouer la tête pour éclaircir sa vision, mais son cou refusa de bouger. Alors, elle sombra dans le néant. Quand elle revint à elle, sans doute après un évanouissement très bref, elle vit que les sœurs interrogeaient toujours la fillette.
« Je ne sais pas, je vous jure. J'ignore pourquoi elle est partie. Elle a dit qu'elle devait aller à Casca, c'est tout ce que je sais. »«
Casca ?»
répéta Armina après un long silence.
« Oui, c'est ce qu'elle a dit. Elle devait absolument aller à Casca. Avait-elle quelque chose avec elle ?»«
Quelque chose ? Je ne comprends pas. Que voulez-vous dire ?»«
Un objet, petite idiote. Elle avait bien des bagages, non ? Un sac, une outre, des choses comme ça. Qu'as-tu vu ? Qu'a-t-elle emporté ?»
La gamine, hésitant à répondre, Ulysia la gifla assez fort pour lui déchausser les dents.
« As-tu vu ce qu'elle emportait, oui ou non ?»
Du sang coulant de son nez et du coin de ses lèvres, la fillette hocha la tête.
« Un soir, pendant qu'elle dînait, je suis montée déposer des serviettes propres dans sa chambre. J'y ai vu quelque chose de bizarre.
Quoi donc ?
Demanda Cecilia.
Eh bien, on aurait dit une boîte. Elle était enveloppée dans un morceau de tissu, mais un coin avait glissé. Cette boîte était toute noire, comme la nuit, et elle absorbait toute la lumière du jour.
Les trois sœurs se redressèrent, pensives. Kalan savait exactement de quoi parlait l'enfant. Au palais du peuple, c'était elle qui s'était introduite dans le jardin de la vie pour voler les trois boîtes d'Orden. Lorsqu'elle était revenue une première fois avec une seule boîte, sœur Ulyssia avait été furieuse qu'elle ne les ait pas toutes rapportées. Mais les boîtes étaient plus grandes que prévu et elle n'avait pas eu assez de place dans son paquetage. Ulyssia avait enveloppé la boîte maléfique dans la jolie robe blanche de Kalan, puis elle l'avait confiée à Tovi, la chargeant de partir en avant et d'attendre ses complices dans une auberge. Redoutant d'être surprise dans l'enceinte du palais en possession d'une des boîtes, Ulyssia avait trouvé une solution judicieuse, il fallait l'admettre.
« Et pourquoi Tovi est-elle partie pour Casca ? »
demanda-t-elle.
« Je ne sais pas, je le jure. Je l'ai seulement entendu dire à mes parents qu'elle devait y aller. Il y a quelques jours qu'elle est partie. »
Recroquevillée sur le sol, Kalan luttait pour respirer. Chaque tentative était une torture. Pourtant, ce calvaire n'était rien comparé à ce qui l'attendait. Quand les sœurs en auraient terminé avec la petite, elles s'occuperaient de punir leur prisonnière.
« Si nous allions dormir un peu bien au sec, »
proposa soudain Armina.
« Nous partirons dès l'aube. »
Son dakra toujours au point, Ulyssia se mit à faire les 100 pas devant la gamine, la semelle de ses bottes écrasant des débris de vaisselle.
« Non, »
dit-elle en se tournant vers ses compagnes.
« Quelque chose ne colle pas. Tu veux parler du sortilège, à cause de la réaction de l'aubergiste ? Non, non, une aberration, rien de plus. » C'est le reste de l'histoire qui ne colle pas. Pourquoi Tovi est-elle partie ? Je lui avais ordonné de nous attendre ici. Elle a obéi, puis elle s'en est allée. Il n'y avait aucun client, pas de soldats de l'ordre dans les environs, et elle savait que nous étions en chemin. Son comportement n'a pas de sens.
Et pourquoi Casca ?
Renchérit Cecilia.
Pourquoi choisir cette destination ?
Ulyssia se tourna de nouveau vers la gamine.
Tovi a-t-elle reçu une visite pendant son séjour ici ?
Non, personne n'est venu. Je vous ai dit que nous n'avions pas eu de clients. La région est dangereuse et aucun voyageur ne s'y aventure s'il n'y est pas obligé.
Ulyssia recommença à marcher de long en large.
Je n'aime pas ça. Quelque chose cloche, mais je ne réussis pas à mettre le doigt dessus.
Tu as raison,
dit Cecilia.
Tovi ne serait pas partie sans une excellente motivation.
Ulyssia s'immobilisa devant l'enfant.
Tovi a-t-elle dit autre chose ou laissé une lettre ?
La petite ravala un sanglot et secoua la tête.
Donc nous n'avons pas le choix,
conclut Ulyssia.
En route pour Casca.
Par un temps pareil ?
Demanda Armina.
Ne serait-il pas plus sage d'attendre demain matin ?
Plongée dans ses pensées, Ulyssia leva les yeux vers sa compagne.
Et si quelqu'un arrive ? Pour avoir une chance de réussir, nous devons éviter les complications. Si Jagang apprend que nous sommes passés par ici, ce sera une catastrophe. Il nous faut rejoindre Tovi et récupérer la boîte. Dois-je vous rappeler l'importance de l'enjeu ?
Avant de continuer, Ulyssia dévisagea ses deux compagnes.
Aucun témoin ne doit rapporter à quiconque que nous étions ici. Oui. Personne ne doit savoir que nous sommes à la recherche d'une des boîtes.
Kalan comprit aussitôt où voulait en venir sœur Ulyssia.
Par pitié,
dit-elle en se redressant tant bien que mal sur les bras.
Ce n'est qu'une enfant, elle ne dira rien qui puisse vous nuire.
Ton enfant sait que Tovi était ici et qu'elle avait une boîte avec elle.
Ulyssia plissa le front, l'air dégoûté.
« Elle sait aussi que nous cherchons Tovi. »
Kalan s'efforça de parler d'une voix assurée et forte.
« Elle n'est pas dangereuse pour vous. Une sœur de l'obscurité n'a rien à craindre d'une petite fille. »
Ulyssia jeta un rapide coup d'œil à l'enfant.
« Pour ne rien arranger, elle sait où nous allons. »
Ulysia regarda Callan dans les yeux. Sans se retourner vers sa victime, elle lança le bras dans son dos et enfonça son dacra dans le ventre de la pauvre petite qui cria de douleur et de surprise. Les yeux toujours plongés dans ceux de sa prisonnière, Ulysia eut un sourire démoniaque. Exactement celui qui devait s'afficher sur le visage du gardien du royaume des morts lorsqu'il songeait à ses sinistres exploits. « Je ne laisserai aucun indice, » dit simplement Ulysia. La lumière de la vie s'éteignit d'un coup dans les yeux de l'enfant. Soudain inerte, elle s'écroula sur le plancher telle une marionnette privée de ses fils. Son regard vide se riva sur Callan, une façon sans doute de lui reprocher d'avoir manqué à sa parole. « Je te défendrai. » Un terrible mensonge. Folle de rage, Callan martela le plancher de coups de poing. Puis elle hurla de douleur, car une main invisible venait de la soulever dans les airs pour la plaquer contre un mur. Et au lieu de retomber, comme l'aurait voulu la logique, elle resta épinglée à sa cloison, tel un papillon piqué sur une planche de liège. Une fois encore, elle ne pouvait plus respirer. À distance, une des sœurs lui comprimait la trachée artère. Terrorisée à l'idée de mourir étouffée, elle porta les mains au collier de fer qui lui serrait le cou. Ulysia approcha. « Tu as de la chance aujourd'hui, » dit-elle, son nez à moins d'un pouce de celui de Callan. « Pour l'instant, nous sommes trop pressés pour te punir comme il conviendrait. Mais tu ne perds rien pour attendre, ne te fais surtout pas d'illusions. »
« Oui, sœur Ulysia, »
parvint à souffler Callan. Toute autre réponse aggraverait simplement son cas, elle le savait.
« Je suppose que tu es trop bête pour comprendre combien tu es insignifiante comparée à nous. Quand nous aurons le temps de te donner une bonne leçon, tu assimileras peut-être enfin que résister ne sert à rien. »
Même si elle devinait qu'un calvaire l'attendait, Callan ne regrettait pas son comportement. En revanche, elle déplorait de ne pas avoir défendu la fillette comme elle le lui avait promis. Le jour où elle avait volé les boîtes dans le palais du seigneur Rall, Callan avait dû laisser derrière elle son bien le plus précieux. La statuette d'une femme qui semblait lancer un défi à l'univers tout entier. En échange, Callan avait emporté avec elle une force qu'elle ne connaissait pas. Debout sur la pelouse du jardin de la vie, alors qu'elle regardait sa chère statue, elle s'était jurée de retrouver un jour sa liberté et son identité. Pour y parvenir, elle devrait inlassablement combattre sous l'étendard de la vie, et cela impliquait de défendre bec et ongles une petite fille qu'elle ne connaissait pas une heure auparavant.
« Allons-y, »
grogna Ulysia en se dirigeant vers la porte. La main magique lâcha Callan, dont les bottes reprirent bruyamment contact avec le sol. Tombant à genoux, elle voulut masser sa gorge douloureuse, mais ses doigts rencontrèrent l'affreux collier qui permettait aux sœurs de la contrôler à distance.
« En route !»
ordonna Cecilia d'un ton si menaçant que la prisonnière se leva d'un bond. Jetant un dernier coup d'œil derrière elle, Callan vit que le regard mort de la fillette continuait à la suivre.